CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30.
Un autre invité prestigieux aujourd'hui, François-Henri Soulier, homme de théâtre, homme de cinéma, homme de voix, j'avais même vu un titre, l'homme à la voix d'or. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour Johan. Bon, moi je vais vous appeler François, puisque je vous ai connu François et vous aviez collé le prénom de votre père à son départ.
C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mon vrai prénom, c'est François-Henri. J'ai été déclaré sous ce prénom dès ma naissance, mais j'ai très vite laissé tomber, justement parce qu'il y avait déjà un Henri dans la famille. Bon, bah, c'était bon, quoi. François suffisait. Alors, les gens qui me connaissent m'appellent François-Henri, et mes amis m'appellent François.
D'accord, alors c'était François Soulier qui était signé Le jour où l'araignée, qui était signé Kafka aucune fois, et des choses qui datent, ça s'appelait Art 2000, bon forcément c'était avant l'année 2000.
Et nous étions fort jeunes.
Voilà.
Nous avions 16 ans, et puis 16, 17, 18, puis après ça a été le conservatoire et d'autres aventures.
Donc à partir de là on se disait, voilà un homme de théâtre, c'est parti.
Oui, alors je ne sais pas si je suis un homme de théâtre, j'en fais encore. J'ai eu la chance d'avoir une pièce qui a été mise en scène par Jacques Lassalle avec Didier Sandre, La nuit de Grenade, sur la mort de Lorquin, et ça a été peut-être la chose la plus, entre guillemets, glorieuse que j'ai faite. J'ai fait beaucoup d'autres choses avec plein d'amis comédiens, et le théâtre est vraiment, c'est ma patrie, on peut dire.
En fait, vous n'aimez pas avoir une trajectoire linéaire. Vous avez touché à tout parce que vous vous sentez polyvalent. Vous dites, mais attendez, moi, je ne vais pas faire de la mise en scène sans toucher au costume, ni au décor, ni au dialogue. Je touche
à
tout.
Oui, c'est une façon de s'amuser, en fait. Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Ça se saurait, je pense, puis je n'aurais pas choisi ce genre d'aventure parce qu'on parle du métier de comédien, du métier de théâtre. Pour moi, ce n'est absolument pas un métier. C'est une aventure. Avec tout ce qui peut se passer de chouette, d'inquiétant, de problématique, de merveilleux, enfin c'est formidable quoi, c'est la vie.
Donc, si je vous invite aujourd'hui, c'est que vous avez deux actualités, une qui est à Caussade grâce à l'Université Populaire de Caussade, c'est une exposition, il y avait dimanche dernier la projection d'un film à 18h.
Oui, même de deux films. Alors c'est une initiative effectivement de l'Université Populaire de Caussade, à l'invitation de Monique Desjean-Servière, nous sommes venus donc planter ce décor d'exposition qui a toute une histoire puisqu'il est né à partir d'une bande dessinée que nous avons coécrit mon ami Thierry Boursy et moi et qu'a illustré, qu'a réalisé Joël Polonsky. Cette bande dessinée a eu le Safran d'Or à Cajar à l'automne dernier et nous avons créé une expo autour. Le propos était de faire découvrir cette planète mystérieuse qu'est l'époque 14-18 à des enfants qui ont du mal à imaginer une vie sans électricité, sans écran tactile, sans internet, sans Facebook, sans téléphone, etc.
Et c'est 14-18 à l'arrière, là, c'est pas
le front, oui, c'est dans les familles, très précisément dans le Quercy, dans le Causse, une famille de paysans dont le fils revient 4 ans après avoir oublié son vrai métier de paysan. Il est devenu soldat, il est devenu un militaire, et il revient dans ce pays qui ne ressemble plus du tout à celui qu'il a quitté. Et donc nous avons cette exposition, et autour d'une plus grande manifestation que fait l'Université Populaire, qui s'appelle « La vie quotidienne des familles de poilus dans le Quercy en 14-18 ».
Avec cette image frappante, qu'il n'y a plus de bœufs, il n'y a plus de chevaux, puisque tout ça a servi pour les troupes. Et du coup, on a cette image extraordinaire d'un éléphant du cirque Pender qui passait par là, attelé à une charrue.
Voilà, en fait, c'est vrai que le cirque Pender prenait ses quartiers d'hiver d'ordinaire à Montauban, et là, ils ont été bloqués, donc en 14-18, les gens partant dans leurs pays respectifs pour faire ce qu'on sait, enfin, savoir la guerre, c'est-à-dire se faire crever la peau, en fait. Et les éléphants ont été mis au service des agriculteurs pour remplacer les bêtes parties au front.
Mais parce que les tigres, c'est un peu plus compliqué.
C'est difficile, oui.
Cette exposition est visible au Récollet, c'est l'exposition d'Université Populaire. Dépêchez-vous, ça ne va pas durer.
Voilà, elle s'achève vendredi 15.
Et puis, il y a une autre actualité, alors là où on ne vous attendait pas, c'est romancier de polar. Et pour démarrer, comme ça, vous touchez le prix du premier roman du Festival de Beaune. C'est aux éditions du Masque. Le titre est très joli. Il n'y a pas de passé simple.
Oui, alors ça, c'est un peu bizarre, parce qu'effectivement, je ne pensais pas vraiment écrire des polars. J'aime beaucoup le genre, parce que je trouve qu'il est formidable. Il touche à la fois à l'essence même de la tragédie, d'abord la tragédie humaine, la tragédie de la vie. En même temps, il touche aux faits divers, il touche à la politique, il touche au quotidien, il permet de parler de beaucoup de choses sous un mode distrayant, attractif, divertissant, sans se prendre au sérieux. On peut comme ça faire le portrait d'une société sous de multiples facettes, et c'est un peu la tentation que j'ai eue en écrivant ça, surtout pour amuser mes copains. Et il semblerait que j'ai des milliers de copains inconnus qui s'amusent aussi, c'est chouette.
Alors, on dit qu'il n'y a pas de passé simple, et le premier volet d'une série d'aventures trépidantes, vous avez créé un héros récurrent, c'est votre Maigret à vous.
Oui, alors j'espère qu'il aura, loin de me comparer à Simenon, pour qui j'ai un immense respect, mais disons que la fabrication d'un héros, c'est toujours un vrai bonheur pour un auteur, parce que on a l'impression d'avoir donné vie à une créature qui est tout à fait indépendante, qui existe dans l'idée des gens, dans leur affect. Les lecteurs tiennent au personnage, peut-être presque plus que nous, les auteurs. Eh ben, c'est formidable, quoi. J'espère que Scander aura une belle vie. C'est un jeune homme, il a l'avenir devant lui. C'est un mec marrant, un peu naïf, un peu...
Oui,
un peu bené en même temps, mais pas
bête. Il est journaliste stagiaire, quoi. Il n'est pas fini.
Voilà, il est journaliste stagiaire, oui, c'est un mec qui débute. Alors, il est dans un journal de province, comme on en connaît dans toutes les provinces de France, un grand quotidien, dans lequel les gens, les journalistes, les vrais, sont intéressés par le sport, la politique, les faits divers, sanglants, les machins un petit peu, enfin, ce qui mousse, quoi. Et alors, on lui refile ce qui n'intéresse absolument personne, c'est la page culturelle. On dit, ça va l'occuper.
Quand
il y en a une, voilà. Alors justement, comme lui, il va s'y donner à fond, il va finir par y en avoir une. On se dit, il écrit plutôt bien, ce môme. Et puis, il se défonce pour son journal. Il y croit vraiment beaucoup. Il est le seul à y croire. Mais, quand il est dans ses affaires de culture, il est rattrapé par la vraie vie des vrais gens, et en particulier par des choses pas claires.
Et alors, parmi les choses pas claires, vous employez le mot engrenage, infernal, on se retrouve dans une enquête qui n'est pas seulement contemporaine, qui peut avoir, peut être juste le résultat de répercussions, d'événements qu'on ne lit pas historiques avec un grand H, mais qui remontent loin dans l'histoire.
Qui touche à l'histoire, oui, parce que l'idée, dans le roman, le vrai sujet profond que j'avais envie de traiter, c'était la barbarie. Et j'ai trouvé que, la barbarie, elle est éternelle, elle a ses racines en nous depuis l'aube des temps. Et c'est vrai que Scander va se trouver confronté à une histoire dont les personnages sont les enfants. Alors, ça va remonter d'abord à la période de la guerre, au nazisme, et puis ça va remonter encore plus loin, au XVIIe siècle, au XVIIIe, à la Révolution française, et peut-être encore plus loin, à l'époque de la création des abbayes cisterciennes, au XIe, XIIe siècle. Donc, effectivement, ça touche à une histoire très lointaine, parce que je pense que nous portons en nous une mémoire génétique qui dépasse de très loin nos grands-parents et qui remonte à la nuit des temps. Et là, à la nuit des temps de la barbarie humaine.
Mais est-ce que les séries genre Game of Thrones vous ont influencé? La barbarie, là, elle est à chaque image.
Ah oui, là, c'est
on bien. Se prend d'amitié pour un personnage.
Oui, et il explose le plan d'après, oui. Alors qu'on est en pleine tendresse avec lui. Non, alors Game of Thrones, je l'ai découvert beaucoup plus tard. J'avais fini le bouquin. C'est une série que je trouve formidable, vraiment fantastique. Non, moi, c'est beaucoup plus quotidien. Mon petit mec, il habite dans un T2 bis avec un poisson jaune dans un bocal pour toute compagnie. Et puis là, il a des copains, il rencontre des gens. Donc il est vraiment, il a une moto, il porte le nom de sa moto. Hein, c'est une Corsaro, une Morini Corsaro 69. Et il a décidé de prendre le pseudo Corsaro comme nom de plume. Il s'appelle donc Scander Corsaro comme sa moto. Et il est vraiment dans le temps présent, dans l'actualité.
Alors, c'est aux éditions du Masque, on le trouve partout, c'est vraiment un prix pour le lire dans une gare, pour faire un trajet, etc. Mais si c'est le premier d'une série d'aventures trépidantes, comme vous dites, ça veut dire qu'il y en a déjà sous le coude.
Oui, il y en a déjà un autre qui est en train de s'écrire, qui aurait pour sujet profond le transhumanisme, qui est un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui, je crois, est peu connu du grand public, qui commence en France maintenant, alors que ça fait... 15-20 ans que les Américains sont en plein là-dedans. C'est-à-dire, le projet consiste à essayer de fabriquer une humanité plus, une humanité améliorée, partant du principe que l'humain est une expérience ratée, et donc il faut que la technologie vienne à son secours pour améliorer la chose. Alors, on peut très bien imaginer que tout ça va appartenir à des multinationales qui vont le faire payer très cher, ça sera un truc pour les gens riches, les pauvres continueront à crever comme des cons, comme d'habitude. Et donc, j'essaie dans ce prochain bouquin de raconter un peu ce qui se passe, ce que nous trame, par exemple, Google en Californie et la Silicon Valley en créant des laboratoires où on bricole un humain de l'avenir.
Aldous Huxley, toujours vivant.
Pire que ça, c'est encore pire. C'est un mélange de Frankenstein, d'Huxley, de tout ce qu'on peut imaginer de plus délirant et qui, là, cette fois-ci, fonctionne puisque les technologies sont là, le savoir est là. Ça va marcher, ça va très très bien marcher.
Et vous allez faire ça pendant les 10 prochaines années ?
Oh non, ça c'est pendant les 10 prochaines semaines. Après, on verra. 10 ans, c'est beaucoup pour quelqu'un qui a tout son avenir derrière lui. Non, c'est énorme. J'écris très vite, heureusement, et donc il suffit d'un mois pour écrire un bouquin. Mon idée, c'est de faire un roman populaire. J'aimerais vraiment être un auteur populaire. Effectivement, quand on me trouve sur les quais de gare, ça me fait très plaisir. L'idée, c'est de faire passer un joli voyage à quelqu'un qui s'embarque dans le train, et puis voilà, à l'arrivée, il a passé un moment divertissant, et c'est tout. Quand on écrit depuis l'âge de 10 ans, ce qui est mon cas, on sait très vite qu'on n'est pas Marcel Proust, et ça n'empêche pas de continuer d'écrire, parce que chacun a sa petite chanson, sa petite musique. Moi, je connais la mienne, maintenant, ça va, c'est bon, je me leurre plus. Je sais qu'en même temps, j'ai la capacité d'amuser, de distraire, de faire passer un bon moment à des spectateurs au théâtre, ou maintenant, je l'espère, à des lecteurs dans leur fauteuil.
Ça vous plaît, ça, faire passer un bon moment, mais en même temps, vous ne voulez plus vous encombrer avec toute une troupe, d'où des spectacles de marionnettes,
oui.
Finalement, on maîtrise mieux.
Oui, c'est beaucoup plus fastoche. Non, c'est pas tellement la question. C'est vrai que la marionnette est un très beau support, c'est par le truchement de la marionnette, on peut dire des choses tout à fait étonnantes parce qu'elle est dotée de capacités que le corps humain n'a pas, et puis surtout d'une faculté de projection de la part du public qui est tout à fait étonnante. Hein. C'est la poupée, c'est l'idole, c'est l'objet rituel, enfin c'est le totem, la marionnette, c'est plein de choses. Non, les comédiens, le problème, ce sont des gens que j'adore, mais l'emploi en France étant ce qu'il est, le coût du travail étant exorbitant, il est très rare aujourd'hui qu'on trouve des spectacles à plus de 2 personnes. Et c'est un vrai problème économique, politique, que je suis absolument incapable de résoudre tout seul. Donc effectivement, les poupées, les marionnettes m'ont permis de faire des grands spectacles à pas cher. Après, je fais encore des pièces avec 2 ou 3 comédiens. Ouais. J'en ai une qui va se créer à Avignon, là, cet été. La Nuit de Grenade, qui est reprise par un metteur en scène. Bon, ben, je lui souhaite bon vent. Il y a 4 personnages, c'est déjà énorme.
À voir l'exposition La vie des familles de poilus dans le Quercy à l'espace des Récollets, organisé par l'Université Populaire, et à trouver dans toutes les bonnes librairies Il n'y a pas de passé simple de François-Henri Soulier. Je vous remercie.
Merci.